Beauté, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Alliance Plus, bienvenue pour notre émission qui aujourd'hui est consacrée à Noël, bien sûr, puisque nous sommes aujourd'hui le 22 décembre et que vous allez pouvoir entendre cette émission pendant plusieurs jours grâce à nos podcasts. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Alliance Plus 103.2. Vous pouvez nous écouter en DAB+ et aussi sur notre site grâce au podcast quand vous voulez donc. Voilà, eh bien, nous commençons notre émission en musique pour célébrer Noël et je vous invite à écouter un chant qui s'intitule « Noël des enfants du monde », un très joli chant que j'ai découvert sur Internet, sur YouTube, voilà. Et puis ensuite, je vous inviterai à écouter une présentation de la fête de Hanouka. C'est la fête juive de la lumière et elle rejoint celle de Noël puisque Jésus, c'est la lumière du monde pour nous. Et cela va être présenté par Antoine Nuis et Olivier Kaufmann. C'est une production de Regard Protestant que je vous invite donc à écouter juste après ce chant du Noël des enfants du monde. À bientôt pour la suite de notre émission.
Donc nous entrons maintenant, nous revenons aux fêtes juives et nous abordons cette fête de la Hanouka. Donc cette fête de la Hanouka, c'est le livre des Maccabées qui en parle. C'est pas dans la grande tradition des grandes fêtes juives. C'est une fête donc qui manifeste la victoire sur les Grecs et elle dure 8 jours et c'est une fête de la lumière où on allume des bougies pendant 8 jours. Est-ce que cette fête-là, elle n'est pas tombée opportunément à ce moment-là pour faire un peu pendant aux fêtes chrétiennes? Donc vous allez nous expliquer un peu plus de quoi il s'agit.
C'est la période historique durant laquelle les Juifs ont été confrontés à cette influence grecque. Il y avait même des Juifs hellénisants. Et il est vrai que cette dynastie des Maccabées, avec cette résistance militaire, vient mettre en avant le culte juif, puisqu'il y avait la menace des points de repère essentiels dans le judaïsme, la circoncision, interdiction de la circoncision, interdiction d'avoir un calendrier hébraïque et surtout la célébration de la nominie du mois et interdiction du Shabbat. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y avait déjà un enjeu majeur à cette époque et les Maccabées se sont révélés victorieux. Mais accompagnant la victoire militaire, il y a ce miracle de la petite fiole d'huile. Cette fiole d'huile qui aurait dû durer 1 jour et qui a duré 8 jours. Et c'est la raison pour laquelle, les Juifs célèbrent durant 8 jours la lumière. Mais quand vous regardez attentivement, cette fête, bien évidemment, elle n'est pas biblique, elle est rabbinique. Mmh. Donc, elle a déjà, avec une autre fête, celle de Pourim, un aspect qui pourrait paraître mineur. Sauf que dans le traité talmudique Shabbat, on évoque la fête de Hanouka. Alors, la fête de Hanouka n'a pas un traité talmudique qui lui est propre, mais à propos d'allumage des mèches, des bougies du Shabbat, on évoque aussi le caractère très particulier des mèches et de l'huile qui doit servir tantôt aux lumières du Shabbat, tantôt aux lumières du Hanouka. Et le mot Hanouka signifie inauguration. Là, il s'agit de la réinauguration d'un lieu de culte qui a été vandalisé, souillé par l'introduction, par l'envahisseur grec, de statues et toutes sortes de choses qui peuvent entraver la continuité du service public au sein du temple. Mais ce qui est vrai, c'est que cette fiole d'huile, elle vient rappeler d'abord que l'huile d'olive, qui symbolise la sagesse, c'est aussi la sagesse telle qu'elle est mise sur un piédestal dans la tradition juive. C'est également le candélabre, la menorah, qui évoque la résistance spirituelle du peuple d'Israël depuis, je dirais, le temps de l'époque biblique, puisque quand Aaron, le pontife, va devoir allumer le candélabre, la menorah, qui, elle, est constituée de 7 branches, eh bien, cette menorah viendra à chaque fois pérenniser la présence et la permanence de la Shekhina, de la présence divine. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, lorsque chez les Juifs, on regarde la lumière, on doit la regarder de manière très particulière, c'est-à-dire pendant une demi-heure, on doit cesser toute occupation matérielle et on doit se concentrer sur une lumière, le deuxième jour sur deux lumières, et ça va de manière croissante. C'est-à-dire qu'il y a une intensification du flux d'énergie que nous voulons quantifier. Mais pour la mystique juive, il ne s'agirait pas juste de célébrer un événement historique de résistance spirituelle et militaire, et c'est bien pour cela que le livre des Maccabées n'a pas été canonisé, n'a pas été intégré dans la lecture juive, précisément parce qu'on ne veut pas mettre sur un piédestal la guerre et le combat militaire, mais un combat plutôt spirituel. Oui, vous avez raison.
Il y a d'autres livres qui sont quand même assez violents,
oui.
De Josué,
c'est vrai.
Les Juges.
C'est vrai. Vous avez raison, sauf que là, vous conviendrez qu'en lisant le livre des Maccabées, on a quand même, sur une longueur de texte, je dirais, des détails militaires.
Oui, c'est pire qu'ailleurs.
Voilà, des détails militaires qui sont assez probants. Et la fête de Hanouka, elle vient libérer toutes les étincelles qu'on a pu thésauriser. Et le Maharal de Prague, qui a écrit un livre entier sur la fête de Hanouka, que la lumière soit, eh bien, il fait allusion à un verset talmudique qui dit que celui qui a pour habitude de regarder les bougies du Shabbat aura pour mérite d'avoir des enfants érudits. En somme, regarder une bougie, c'est regarder les matériaux qui se consument, c'est-à-dire l'huile, la mèche, mais en même temps garder en soi une flamme vivace dans l'esprit. Elle est éternelle. Par conséquent, en accomplissement, la seule mitzvah, la seule loi de Hanouka, parce qu'en fait, ce n'est pas un jour chômé, Hanouka, c'est juste une demi-heure où on allume et on regarde la bougie, ben, en accomplissement cette loi, on parviendrait à libérer l'essence spirituelle intemporelle que nous avons thésaurisée dans tout ce que nous avons fait durant la période de Tishri, et regarder le monde comme une bougie, ensemble, ça reviendrait à lui reconnaître un potentiel spirituel infini et éternel.
Alors Antonouis, nous avons, à ce moment-là, nous avons l'épiphanie.
Oui, alors c'est
ça n'a pas beaucoup de rapport, mais comment vous entendez cette fête-là? Est-ce que vous retenez de ce que...
Oui, je veux dire que... Bon, d'abord, vous avez relevé vous-même que Hanouka, c'est la tradition rabbinique, c'est pas la tradition biblique, enfin, donc c'est dans les Maccabées, dans nos Bibles, on appelle ça les deutérocanoniques, c'est-à-dire du deuxième canon, dont Luther disait que leur lecture peut être édifiante, mais qu'elles n'ont pas valeur normative. Hein. Je veux dire, donc ça reste quand même un livre, j'allais dire, second dans la révélation. Cela dit, dans ce que vous dites, il y a effectivement, un, le thème de la lumière, et ça, le thème de la lumière, c'est vrai que nous, autour des fêtes de Noël, il y a cette importance de la lumière, et en disant que, voilà, la lumière qui est venue dans le monde. Et puis, ce qu'il y a dans cette fête, nous, que nous n'avons pas célébrée, mais que je trouve assez important, eh ben, d'une certaine façon, c'est la liberté religieuse. Hein. Parce que la fête de Hanouka, c'est quoi? C'est le peuple juif qui résiste contre une politique d'assimilation et une politique qui consiste à interdire le culte. Et il me semble que ce qui est important, peut-être que nous pouvons retenir, et alors je ne sais pas comment nous pouvons le célébrer, mais c'est ce thème de la liberté religieuse, et je dirais la liberté religieuse qui est au commencement de toutes les libertés. Vous avez évoqué tout à l'heure le thème de Moïse. Vous savez, quand Dieu se révèle à Moïse au buisson ardent, Bon, il dit, quel est le signe que c'est toi qui m'envoies, et je ne vous apprends rien, et que Dieu lui répond, le signe c'est que quand vous serez libéré, vous louerez sur cette montagne. C'est-à-dire que de poser la liberté religieuse comme étant la matrice de toutes les libertés. Et il me semble que c'est ça que moi j'entends dans cette fête de Hanouka, de nous rappeler, et aujourd'hui, dans notre actualité, je ne sais pas, alors moi, quand je me suis dit, mais finalement, comment est-ce qu'on peut, ben, est-ce que quelque part à Hong Kong, aujourd'hui, les étudiants qui se révoltent pour maintenir leur liberté, il n'y a pas une analogie en disant, est-ce que ce n'est pas d'une certaine manière la fête de la liberté, la fête de la libération ?
J'aime cette idée de l'affirmation de la liberté de culte, surtout aujourd'hui, dans ce beau pays qu'est la France, république une et indivisible, et qui affirme comme un principe sacro-saint de laïcité. Vous avez raison, c'est un beau regard. L'affirmation de la liberté de culte, c'est central. Et en somme, le mot Hanouka, c'est vrai, c'est rabbinique, mais les rabbins ont cherché quand même à faire un lien avec le Pentateuch, parce que dans les 8 jours de Hanouka, il fallait quand même instituer une lecture biblique. Mais alors, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'occurrence biblique qui font résonner cette fête. Sauf que le mot Hanouka existe dans la Bible, puisque lorsque Dieu a donné pour mission à Moïse, accompagné de Bezalel, l'architecte, de construire le tabernacle, il y a eu Hanouka Tabismiach, il y a eu une fête d'inauguration de l'autel. Et chaque prince d'Israël a apporté des cadeaux, des offrandes. Et donc
ça,
chaque
ça rappelle
jour,
les rois-mages. Les offrandes.
Non, les ramages, oui. Et la dédicace du temple par Salomon, la prière de Salomon.
Ah oui, alors oui, tout à fait. Oui, exactement, oui. À chaque fois, oui, alors c'est vrai, il y a aussi cette idée d'inauguration. C'est célébrer l'inauguration, en somme, c'est reconnaître la main de Dieu, mais la main humaine. Mais en fin de compte, la liberté de culte, c'est aussi l'affirmation du culte du Dieu unique. Les rabbins sont très partagés. Est-ce que la conception du temple était-elle déjà constitutive du projet divin ou est-elle une concession aux besoins des hommes suite à la faute du veau d'or ? Donc c'est vrai que là, du coup, le mot Hanouka peut résonner différemment dans l'esprit des Juifs, mais d'une certaine manière, nous ne mettons pas en avant le candélabre. Nous mettons en avant la lumière. C'est-à-dire que c'est fixer non pas le candélabre, mais c'est fixer du regard la lumière. C'est pour cela que les rabbins sont très très frileux quant à la manière de reproduire un candélabre de manière identique. C'est pour ça que la Hanoukia, on ne l'appelle pas menorah, on ne l'appelle pas candélabre, on l'appelle la Hanoukia, parce qu'elle est constituée de 8 branches plus une qui vient bien montrer que cette lumière est très particulière, mais qu'elle ne peut pas être assimilé de manière totale aux lumières du temple. Donc il y a une distance, je dirais, de sécurité pour ne pas que cette Hanoukia, là encore, soit, je dirais, idolâtrée comme un objet de culte. Voilà. Mais il est vrai que quand vous parliez d'affirmation de liberté de culte, c'est vrai que certains pourraient y voir une manière ostentatoire de publier cette lumière parce qu'on nous demande dans la tradition de mettre les lumières près de la fenêtre. C'est pour ça que vous avez de grands allumages publics dans Paris et ailleurs pour non pas faire du prosélytisme, mais pour publier la lumière de Dieu sur terre et d'une manière secondaire, voire accessoire, selon les intentions des uns et des autres, c'est d'affirmer aussi que le peuple juif est toujours vivant et qu'il a résisté à tous les climats hostiles.
D'accord. Alors, cette lumière, pour nous chrétiens, le fait que ça ait lieu dans la période de Noël, la lumière qui est venue dans le monde, c'est quand même pour nous une image de Christ, et c'est quand même une image de Noël. Et que là, il y a... alors, je ne veux pas dire qu'il y a un détournement de Hanouka, ou que, mais ce thème-là, je dirais, voilà, Noël, c'est aussi pour nous la fête de la lumière.
Ce qui est formidable dans ce dialogue, c'est qu'on a l'impression, on a vraiment le sentiment d'une imprécation de nos deux traditions qui se croisent dans tous les sens, même avec ces différences. Mais je trouve que c'est une belle leçon que nous avons ensemble là, de partager, parce qu'effectivement, on sent toutes ces proximités et on sent des points de différence, mais c'est ça la richesse de nos traditions différentes. Thank you.
Vous écoutez Radio Alliance Plus, vous êtes sur le 103.2, toujours dans l'émission Dans nos communautés avec Christiane Hervault au micro. Et vous venez d'entendre l'explication sur la fête de Hanouka par Antoine Nouist et Olivier Kaufmann, et ensuite la musique Douce Nuit. Nous sommes bien toujours dans le temps de Noël, alors nous allons continuer, même si nous allons aller un peu plus loin dans l'espace et dans la géographie, puisque nous allons écouter un conte irakien dit par Claire Delangle. C'est un conte qui s'intitule « Les deux amis de Bagdad » et c'est une production de la Fédération protestante de France qui est passée sur les antennes dimanche dernier. Voilà, je vous invite donc à écouter ce joli conte qui nous dit beaucoup de choses, vous allez le voir. Et puis ensuite, nous entendrons encore un chant qui sera notre chant final. Noël, c'est Jésus qui vient. Mais nous nous retrouverons bien sûr tout à la fin de cette émission pour quelques mots encore. Voilà, je vous laisse écouter ce conte et ce chant. À tout à l'heure.
À Bagdad, dans la cité de la paix, vivaient deux hommes, amis depuis toujours. Ils étaient nés le même jour dans la même rue. Ils avaient grandi ensemble dans le quartier. Ils avaient été à l'école ensemble. Ils avaient fait leurs études ensemble. Ils avaient ouvert un commerce chacun la même semaine dans la même rue. Ils se consultaient en tout, pour tout, tout le temps. Et les affaires marchaient bien. Un jour, l'un des deux hommes décide d'aller s'installer à Bassora, avec sa femme et ses enfants, pour y monter une nouvelle affaire. Les deux hommes se séparent pour la première fois de leur vie. À Bagdad, les affaires marchent toujours bien. Le commerçant s'enrichit. Mais à Bassora, c'est une autre histoire. Le commerçant voit la roue du destin tourner. Les affaires ne marchent pas du tout. Et au bout de quelques années, il n'a plus rien. Il se retrouve dans un dénuement extrême, lui, sa femme et ses enfants. Il n'a plus de quoi se vêtir pour lui, sa femme, ses enfants. Il a à peine de quoi se nourrir pour lui, sa femme et ses enfants. Leur désespoir est immense. Un matin, sa femme lui dit « Tu devrais retourner à Bagdad. Allez voir ton ami. Vous êtes amis depuis votre naissance. Il fera quelque chose pour nous, pour toi. » Le lendemain, le commerçant de Bassora quitte sa ville et il va en direction de Bagdad. Lorsqu'il arrive dans la cité de la paix, il cherche la maison de son ami. Il frappe à la porte. C'est le commerçant de Bagdad qui ouvre en personne. Lorsqu'il voit son ami, sale, habillé en haillons, maigre comme un clou, il lui claque la porte au nez. Le trajet du retour pour le commerçant de Bassora est bien plus dur que celui de l'aller, car en plus de la famine qui lui tenaille le ventre, il y a la colère, l'humiliation, la déception. Lorsqu'il arrive à Bassora, il dit à sa femme « Le pire est arrivé, la porte a claqué. »« Quoi ?» répond sa femme. « Il ne fera rien, rien du tout pour nous. » La vie à Bassora continue avec son lot de soucis. Une semaine plus tard, on frappe à la porte du commerçant de Bassora. Il fait encore nuit, tout le monde dort, le commerçant de Bassora se lève, inquiet, surpris. Il va ouvrir. De l'autre côté de la porte, c'est une jeune fille, toute vêtue de noir, qui porte un sac qui semble lourd. Elle dit « Mon mari est décédé il y a peu. Il m'a laissé en héritage ces bijoux que j'ai mis dans ce sac. Ce sont des bijoux de grande valeur. J'ai besoin d'argent. Mais je ne connais rien au commerce. J'ai entendu parler de toi. Il paraît que tu es un homme honnête et un bon commerçant. Je te propose un marché. Je te confie la vente de ces bijoux. L'argent que tu auras récolté, nous le partagerons en deux parts égales, une pour toi, une pour moi. » Le commerçant de Bassora accepte. Dès l'aube, il se met en quête d'acheteurs. À la fin de la journée, il a tout vendu. La jeune fille revient. Elle prend l'argent récolté, le partage en deux parts égales, une pour elle, une pour le commerçant de Bassora. Avec cet argent, le commerçant de Bassora achète de quoi s'habiller pour lui, sa femme, ses enfants. Il achète de quoi manger pour lui, sa femme, ses enfants, pour les jours à venir et même pour quelques semaines. Et il s'installe un petit étal sur la place du marché où il vend 2-3 babioles à bas prix. La vie va un petit peu mieux à Bassora. Une semaine plus tard, on frappe à nouveau à la porte du commerçant de Bassora. Il fait nuit, le commerçant de Bassora se lève, il va ouvrir. C'est un jeune homme, cette fois, qui se précipite à l'intérieur de la maison. « J'ai gagné mon pari, et me voilà propriétaire d'une cargaison entière de tapis de soie venus de Chine. Je ne sais qu'en faire, il y en a tant. » »« J'ai entendu parler de toi. Il paraît que tu es un homme honnête et un bon commerçant. Je te propose un marché. Je te confie la vente de toute la cargaison des tapis de soie. L'argent que tu auras récolté, nous le partagerons en deux parts égales. Une pour toi, une pour moi. » Le commerçant de Bassora n'en croit pas ses oreilles. La roue du destin est à nouveau en train de tourner. Il accepte. Dès le petit matin, il se met en quête d'acheteurs. Et au bout d'une semaine, il a tout vendu. Le jeune homme revient. Il prend l'argent récolté, le partage en deux parts égales, une pour lui, une pour le commerçant de Bassora. Avec cet argent, le commerçant de Bassora fait réparer sa maison. Il fait un festin pour sa femme, ses enfants, ses amis, ses voisins, et il achète un commerce dans la rue commerçante de Bassora. La vie va beaucoup mieux à Bassora. Trois semaines plus tard, à nouveau on frappe à la porte du commerçant de Bassora. Celui-ci se lève, va ouvrir, c'est un jeune homme qui se trouve de l'autre côté et qui lui dit « Mon père était tisserand. » C'était un des meilleurs tisserands. Il a tissé, brodé, cousu toute sa vie, il a fabriqué tant de tapis, d'étoffes, de tissus. Il en a beaucoup vendu de son vivant, mais il en reste beaucoup. Il est mort il y a quelques jours et il m'a laissé en héritage son atelier avec tous ses tapis et ses étoffes. Moi, j'ai besoin d'argent pour m'établir et je ne connais rien au commerce. Mais j'ai entendu parler de toi. Il paraît que tu es un homme honnête et un bon commerçant. Je te propose un marché. Je te confie la vente des tapis et des tissus de mon père. L'argent que tu auras récolté, nous le partagerons en deux parts égales. Une pour toi, une pour moi. Le commerçant de Bassora accepte. Il prend tous les tapis et les étoffes et les installe dans son commerce. Au bout de trois semaines, il a tout vendu. L'argent récolté est colossal. Lorsque le jeune homme revient, il prend l'argent, le partage en deux parts égales. Une pour lui, une pour le commerçant de Bassora. Le commerçant de Bassora se retrouve à la tête d'une petite fortune. Il dit à sa femme « Demain, je retourne à Bagdad et je vais aller voir mon ami. Je vais aller lui dire tout le bien que je pense de lui. » Le lendemain, le commerçant de Bassora quitte sa ville et il va en direction de Bagdad. Lorsqu'il arrive dans la cité de la paix, il cherche la maison de son ami, frappe à la porte. C'est le commerçant de Bagdad en personne qui ouvre. « Ne te fatigue pas à me claquer la porte au nez. Je vais bien, je suis fortuné maintenant. Je ne viens pas te demander de l'aide. Je suis venu ici pour mettre un terme à notre amitié. » Le commerçant de Bagdad répond à son ami « Avant de prendre cette décision, viens, rentre chez moi une dernière fois, s'il te plaît. » Le commerçant de Bassora accepte. Il suit son ami à l'intérieur de la maison jusque dans le salon. Dans le salon, le commerçant de Bassora voit trois jeunes personnes attablées autour d'un thé. Il les regarde, un jeune homme, une jeune femme. C'est là qu'il les reconnaît. Oui, ce sont eux qui sont venus frapper à sa porte et lui proposer des marchandises à vendre. Le commerçant de Bagdad lui dit « Lorsque tu es venu chez moi et que tu as frappé à ma porte, je t'ai vu sale, maigre comme un clou, habillé en haillons. La douleur m'a envahi. Mais mon cœur s'est brisé lorsque je t'ai claqué la porte au nez. Je ne pouvais pas te faire la mendicité comme on fait à un mendiant qui nous fait pitié à toi, mon ami Sanan. Alors je t'ai envoyé mes enfants, avec de la marchandise à vendre. Si aujourd'hui tu as refait fortune, c'est grâce à ton talent, uniquement. Tu ne me dois rien. L'amitié est intacte. »
Noël, c'est Jésus qui vient.
Vous êtes bien sur 103.2 et vous écoutez l'émission Dans nos communautés. Émission qui se termine maintenant après avoir écouté un conte irakien qui a été interprété par Claire Delongle et ensuite un chant final, Noël, c'est Jésus qui vient. Évidemment, maintenant, il ne me reste plus qu'à vous dire joyeux Noël. Je vous souhaite un très bon temps de paix et de joie pendant toute cette période de Noël et nous nous retrouverons pour fêter le premier de l'an 2024. À tous et à tous, joyeux Noël encore.